Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique.
Chris Marker et Alain René se sont rencontrés à la fin des années 40 dans les locaux de Travail et Culture, organisme œuvrant à l'éducation populaire, proche de la revue Esprit et du PCF, au sein de laquelle le critique André Bazin jouait un rôle important. Avec La Jetée et Nuit et brouillard, et aussi d'autres réalisations, Chris Marker et Alain René ont signé certains des films courts les plus importants de l'histoire du cinéma. Les Statues meurent aussi, qu'ils réalisèrent ensemble, fait également partie de ces films importants. Avec ce film de commande sur l'art nègre, voulu par la revue Présence africaine, ces réalisateurs se posèrent une question, au fond très simple. Pourquoi l'art nègre se trouve-t-il au Musée de l'Homme, alors que l'art grec ou égyptien se trouve au Louvre? Pris Jean Vigo en 1954, le film n'en fut pas moins invisible pendant une dizaine d'années, censuré pour son anticolonialisme trop flagrant. En 2006, dans La Nouvelle Fabrique de l'Histoire et dans le cadre d'une série sur les rapports entre l'anthropologie et l'histoire, Séverine Liattard et Christine Robert s'intéressaient aux films d'Alain René et Chris Marker, Les Statues meurent aussi.
Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture.
L'art nègre, selon Alain René et Chris Marker, dans Les Statues meurent aussi.
Alors les statues meurent aussi, bien sûr, mais ce qui empêche les statues de mourir, c'est la mémoire, disons, des messages dont elles sont porteuses. Et alors effectivement, tout ce travail-là, disons, d'appropriation de la mémoire, René est aussi un cinéaste de la mémoire, il ne faut pas oublier.
C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit poucet, mais l'histoire a tout mangé. Un objet est mort quand le regard vivant qui se posait sur lui a disparu, et quand nous aurons disparu, nos objets iront là où nous envoyons ceux des nègres, au musée.
Et d'ailleurs, ça pose aussi une grande interrogation sur la fonction des musées. Et avec l'inauguration du prestigieux musée qui peuple notre présent immédiat, ça nous renvoie à ce que peuvent être et ce que devraient être aussi des musées en Afrique.
À la demande du collectif Présence africaine, les deux jeunes cinéastes, que sont Alain René et Chris Marker, entreprennent, en 1950, de faire un film sur l'art nègre. Les statues meurent aussi est à replacer dans un contexte, celui de la colonisation, et de sa contestation par certains penseurs noirs, comme Cheikh Anta Diop, Aimé Césaire, Léopold de Seda Senghor, Price Mars, Alioune Diop ou Frantz Fanon. À sa sortie, le film est censuré, mais précède de peu la conférence de Bandung qui réunit les représentants des pays pauvres et proclame leur volonté de se débarrasser du colonialisme, mais aussi le premier congrès des écrivains noirs qui se déroule à la Sorbonne en 1956 et 10 ans plus tard, le premier festival des arts nègres à Dakar. Les auteurs procèdent à une mise à nu des mécanismes d'oppression et d'acculturation, dénoncent la muséification du monde et la marchandisation de l'art initiée par le blanc. Les statues meurent aussi, peut paraître à certains égards daté et dans le même temps d'une étonnante actualité à l'heure où s'ouvre le musée du Quai Branly qui se définit comme une institution dédiée aux cultures autres.
L'art nègre, nous le regardons comme s'il trouvait sa raison d'être dans le plaisir qu'il nous donne. Les intentions du nègre qu'il crée, les émotions du nègre qu'il regarde, cela nous échappe. Parce qu'elles sont écrites dans le bois, nous prenons leurs pensées pour des statues. Et nous trouvons du pittoresque là où un membre de la communauté noire voit le visage d'une culture.
Roland Collin, tout le long du film, on parle, dans Les Statues meurent aussi, de l'art nègre.
Alors, on parle de l'art nègre dans les années 50. Bon, d'abord, il y a deux choses. Il y a l'art et puis il y a l'épithète nègre. L'art, dans la vision ancienne, disons du nègre, enfin de l'Africain infantilisé, c'était, disons, un état de l'humanité qui n'était pas encore en mesure, dans la représentation courante, d'accéder à la puissance, au raffinement d'une création artistique. Donc dire que c'est de l'art, c'était déjà une première rupture. Alors ensuite, nègre, c'est tout le débat initié par Senghor et par Césaire juste avant la guerre, renversant en quelque sorte le sens d'un épithète qui était péjoratif, qui était tout à fait une marque de dévaluation, pour au contraire, disons, le rétablir dans une identité puissante. Et dire qu'un nègre soit capable, disons, d'une création artistique, c'était une sorte de rupture révolutionnaire que Sartre d'ailleurs a bien marqué dans la préface qu'il a faite à l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Senghor, dans un texte qui a été assez marquant, qui s'appelle Orphée noir. Et je crois qu'il y a tout ça à travers ça. Art nègre, ça, c'était un objet de scandale.
Et Roland Collin, quel a été aussi le rôle des surréalistes dans cette vision de l'art africain comme art nègre aussi?
Alors, le rôle des surréalistes, effectivement, il peut y avoir aussi des ambiguïtés dans les phénomènes qu'on observe. Parce que les surréalistes avaient comme objectif de faire éclater le carcan des références, disons, établies dans les académismes antécédents, et donc faire voler les formes, intégrer, disons, toute une série de dimensions, sortir du réel. Et puis les voilà rencontrant, disons, des objets de création qui effectivement s'affranchissent de la vision du réel telle qu'on a pu la voir dans l'Occident, avec là aussi, alors c'est le témoignage de Senghor, la libération des émotions par opposition à la dictature de la raison. Les surréalistes, il faut bien le dire, ont fait relativement peu de chemin dans la compréhension, disons, du mouvement profond et du signifiant qu'on peut et qu'on doit trouver derrière ces manifestations artistiques. Et c'est seulement dans une période plus contemporaine qu'on a pu s'engager aussi dans cette démarche.
Donc on voit bien combien René Marqueur quand même se sont beaucoup inspirés de cette conception de l'art africain, puisqu'ils disent dans le film « tout est émotion, tout est liberté ».
Tout à fait. Je crois aussi que Senghor l'affirmait depuis longtemps.
C'est son sourire de Reims qu'elle regarde. C'est le signe d'une unité perdue où l'art était le garant d'un accord entre l'homme et le monde. C'est le signe de cette gravité que lui lègue, au-delà des métissages et des bateaux d'esclaves, cette vieille terre des ancêtres, l'Afrique. Voici le premier partage de la terre. Voici le fœtus du monde. Voici l'Afrique du 11e siècle, du 12e, du 15e, du 17e. D'âge en âge, tandis que sa forme se dégageait lentement, l'Afrique était déjà la terre des énigmes. Le noir était déjà la couleur du péché. Les récits des voyageurs parlaient de monstres, de flammes, d'apparitions diaboliques. Déjà le blanc projetait sur le noir ses propres démons pour se purifier. Et pourtant, lorsqu'au-delà des déserts et des forêts, il croyait aborder au royaume de Satan, le voyageur découvrait des nations, des palais.
Lamine Diakaté, poète sénégalais, mars 1969.
Présence africaine étant le producteur du film, il était bien normal qu'un de ses représentants vienne nous en parler. L'un de ses membres et des plus éminents, le poète Lamine Diakaté, est venu nous rappeler en quelque sorte l'itinéraire qui a conduit à la réalisation de « Les statues meurent aussi ».
Ce film a été commandé à Alain René par Présence africaine en 1951. Présence africaine avait voulu à l'époque réaliser un film consacré à cet art nègre qui a été en vogue en Europe dans les années 20. Quand j'ai dit les années 20, c'était déjà dès les années 1912, grâce à Guillaume Apollinaire, à Blaise Cendrars, Ensuite, grâce à Pablo Picasso, à Jean Cocteau et à d'autres que nous nous excusons de ne pouvoir citer ici car la liste serait allongée. Il y a eu donc cette vogue de l'art nègre qui n'a pas manqué d'influencer les esprits les plus curieux de l'époque. Et c'est l'époque où l'on parlait des statues, des masques nègres. C'est l'époque où l'on parlait de l'introduction du cubisme. Enfin, une sorte de quatrième dimension que l'art nègre introduisait dans l'art occidental. Et puis, les choses en étaient restées là. L'art était devenu affaire d'ethnographes qui ne sont pas essentiellement des artistes. L'art est resté donc confiné dans les musées d'Afrique et dans les musées d'Europe. Présence africaine dans sa vocation qui est de défendre et d'illustrer le patrimoine culturel du monde noir pour l'offrir aux autres hommes, à tous les hommes du monde, avait donc pensé en 1951 qu'il était bon de revenir à ses sources essentielles de notre patrimoine. Et Présence africaine a eu le bonheur de rencontrer René, à qui elle a confié la mission et qui a rempli cette mission à la satisfaction de tous. La preuve est que les statues meurent aussi, demeurent ou tout au moins restent un classique dans le domaine de la défense et l'illustration de l'art nègre.
Alain René, 31 mars 1969.
La revue Présence africaine nous a dit « Est-ce que vous voulez faire un film sur l'art nègre ?» Et nous avons dit « Bon, ben, on va faire un film sur l'art nègre. » Et c'est simplement au cours du film, justement, que nous avons été obligés de nous poser la question « Mais comment se fait-il que l'art nègre est considéré comme de l'ethnographie, et donc au musée de l'homme, et pas au musée du Louvre ?» Après tout, est-ce qu'il n'y a pas là tout de même une question qu'on peut se poser ? Et c'est à la suite de ça que nous avons débouché sur la constatation évidente, évidemment, que même dans ce domaine, eh bien, le racisme se manifestait.
En fait, c'est un peu le procès de la compréhension que vous faisiez.
Oui, je crois qu'on peut le dire comme ça.
Roland Collin, donc, dans les années 50, même un petit peu avant, juste après la Seconde Guerre mondiale, vous faites partie un peu des milieux anticolonialistes et vous fréquentez notamment le réseau de Présence africaine, Sangor. Est-ce que vous pourriez un petit peu m'expliquer comment vous en êtes venu à fréquenter ce milieu-là et puis à vous engager pour l'émancipation en fait des peuples colonisés?
Moi, je venais de ma province profonde et j'étais monté à Paris, selon l'expression consacrée, et j'y rencontrais des étudiants africains de la génération d'après la guerre, et en particulier Joseph Kizerbeau, qui était étudiant en histoire à la Sorbonne et qui était devenu un ami intime. Et ces étudiants africains m'engageaient vivement à, disons, participer à l'aventure de la décolonisation en m'engageant dans l'administration coloniale de l'époque pour qu'on puisse se tendre la main de part et d'autre dans une aventure qui était tout à fait inédite. J'ai donc passé le concours de l'école de la France d'Outre-mer, je suis devenu administrateur de la France d'Outre-mer, et c'est à l'école de la France d'Outre-mer que j'ai rencontré Senghor, qui était mon professeur de langue et culture et civilisation africaine, et le courant a passé, je me suis complètement passionné pour ce qu'il nous enseignait, et nous avons entretenu à partir de ce moment-là des relations privilégiées sur très long cours. C'était en 1948-50. Senghor m'avait engagé à faire mon mémoire de fin d'école sur la littérature orale africaine, dans l'esprit de faire apparaître que cette littérature n'était pas du folklore, mais une littérature, une grande littérature, qui mettait en évidence toutes les dimensions de la condition humaine. J'ai fait ce mémoire. Je l'avais écrit donc en 1950, 2 ans avant les statues meurent aussi, et dans un temps où effectivement, le problème de l'identité africaine et de la civilisation africaine était en jeu, en débat, dans ce moment précis où on était à la fin d'un monde, le monde de la colonisation, mais dont les modalités, d'abolition étaient encore loin d'être claires, et à l'aube d'un nouveau monde dont les modalités disons, de surgissement n'était pas davantage très clair.
Alioune Diop, Dakar, 1947.
À l'occasion de la fondation de Présence africaine, nous avons demandé à son fondateur, M. Alioune Diop, de vous dire quelques mots sur les buts et la signification de cette nouvelle revue.
Tout d'abord, cette revue s'exprimant en français assurera un enrichissement de la langue française. Les auteurs sont des Noirs qui auront à transposer dans la langue de Racine et de Voltaire une forme de sensibilité et d'humanité qui drapera les termes de nuances nouvelles, la syntaxe de flexions inédites et la pensée de thèmes et valeurs encore peu connues. Assurément, Louis Lavelle avait raison qui me disait un jour, en réponse à des considérations semblables sur les philosophes de l'Inde, « Il y a tout l'homme dans l'homme ». L'Européen, semblait-il dire, est capable d'égaler et de dépasser les plus grands penseurs de l'Inde. Mais encore faut-il connaître la pensée de l'Inde pour la dépasser, l'humanité du nègre pour la transcender. Il s'agit avant tout d'apporter dans le creuset de la pensée de la technique européenne des pensées nouvelles, des accents de sensibilité nouveaux, inconnus ou mal connus.
Présence africaine a été fondée par Alioune Diop.
Pathé Diagne, ethnologue.
Je crois que Alioune Diop a été la personnalité centrale dans cette entreprise. Il est bon de dire d'ailleurs qu'Alioune Diop venait d'Alger où il avait fait ses études et il connaissait très bien Albert Camus, donc voilà sa filière. Et quand il vient en France, il va évidemment au contact de André Gide, de Jean-Paul Sartre en particulier, qui va préfacer l'anthologie poétique de Senghor. Donc, Alioune est véritablement une figure de proue dans cette entreprise. Et c'est lui qui va être le rassembleur. Alors, il y a évidemment... il avait créé Présence africaine en 1947 avec, évidemment, tout cet aéropage d'intellectuels français et africains, dont Aimé Césaire de la Martinique, Léopold Sédar Senghor, Price Mars, René Depestre, Cheikh Diop, etc. Et ce qui est peut-être remarquable, c'est qu'au fond, c'est des personnalités qui sortent de la guerre. Senghor a été prisonnier des Allemands. Donc, c'est un vétéran, d'une certaine manière. Alioune venait d'Alger, et on sait très bien le rôle que le Tchad de Eboué, mais aussi l'Afrique du Nord, va jouer dans la libération de la France. Donc, il y a une fraternité d'armes à l'époque, qui est véritablement quelque chose d'extraordinaire, de très généreux, qui est une part de cette France que les étrangers aiment et que nous aimons, nous qui appartenons à cette génération. Donc c'est dans ce contexte qu'Alioune Diop a pensé que l'impact qu'avait eu l'art nègre au début du siècle pouvait être repris en compte, d'autant plus que s'accumulait un certain nombre d'œuvres. Alors Senghor avait publié l'anthologie avec une préface de Sartre qui est intitulée, comme vous le savez, Orphée Noir. C'est l'époque également où Camus va faire son film brésilien Orfeo Negro. Et il est évident que après la publication de l'art nègre par Présence africaine, il manquait un élément, et c'est cet élément-là que René va apporter avec l'étude de la sculpture, de l'art plastique nègre et africain de l'époque. Voilà un peu, si vous voulez, le background de l'époque dans lequel cette réflexion va s'organiser.
Quelle musique berçait cette petite princesse, cette petite orange mûrie dans les caves du Bénin? Quel culte présidait cette petite république de la nuit? Nous n'en savons rien. Ces grands empires sont les royaumes les plus morts de l'histoire. Contemporains de Saint-Louis, de Jeanne d'Arc, ils nous sont plus inconnus que Sumer et Babylone. Au siècle dernier, les flammes des conquérants ont fait de tous passer une énigme absolue. Noir sur noir, combat de nègres dans la nuit des temps, le naufrage nous a laissé seulement ces belles épaves striées que nous interrogeons. Mais si leur histoire est une énigme, leurs formes ne nous sont pas étrangères. Après les frises, les monstres, les atrides casqués du Bénin, tous les vêtements de la Grèce sur un peuple d'insectes, voici ces Apollons d'Aïphée qui nous tiennent eux aussi un langage familier. Et c'est à juste titre que le noir y puise l'orgueil d'une civilisation aussi vieille que la nôtre. Nos ancêtres peuvent se regarder en face sans baisser leurs yeux vides. Mais cette fraternité dans la mort ne nous suffit pas. C'est beaucoup plus près de nous que nous allons trouver le véritable art nègre, celui qui nous déconcerte.
Mais moi, une chose qui m'a frappé aussi dans ce film, c'est que...
Roland Collin, ethnologue.
Bien sûr, on présente des objets. Le film est le défilement d'une galerie d'objets, dont certains sont tout à fait prestigieux. C'est pas par hasard si, dans la première partie du film, il y a toute une série de présentations d'objets en provenance des civilisations du Bénin, disons avec tout un raffinement, en particulier des têtes sculptées, terre cuite et bronze, qui sont d'ailleurs au musée d'Ifé et puis aussi au British Museum, et dont les représentations sont relativement plus proches de l'art occidental que, disons, les grands éclatements des personnages qu'on peut voir dans d'autres types d'art. Peut-être d'ailleurs, il y a aussi un art des empires et un art des sociétés profondes, en particulier des sociétés forestières, qui n'utilisent pas les mêmes matériaux ni les mêmes manières. Mais ce qui m'a frappé, donc, c'est que Marker et René présentent cela comme une sorte de série pour bien montrer qu'il y a aussi une société derrière. Ils le pressentent. Ils sont discrets sur les soubassements sociaux et culturels.
L'énigme, elle commence maintenant, ici, avec cet art pauvre, cet art du bois dur, avec ce plat à divination par exemple. Il ne nous sert pas à grand-chose de l'appeler objet religieux dans un monde où tout est religion, ni objet d'art dans un monde où tout est art. L'art ici commence à la cuillère et finit à la statue. Et c'est le même art.
La grande bataille de René et Chris Marker, à mon sens, c'était de donner un statut d'œuvre d'art à la production anonyme ou non des Africains, qui était une contribution considérable dans l'évolution de l'art mondial et qui va avoir un impact, comme je l'ai dit, extrêmement important sur la manière de voir, du point de vue plastique, de voir moderne.
Le noir crée une nature à son image. Dès lors, tout objet est sacré, parce que toute création est sacrée.
Ça, c'est cette révolution-là. Et René, comme Chris Marker, sont très précautionneux sur cette base, au point d'être trop possessifs, peut-être, vis-à-vis de leur découverte.
Sa marque et quelquefois son visage. Formes animales comme sur cette bobine de tissage. Formes végétales comme sur ces boîtes à phares. Toute la création défile sous les doigts de l'artiste noir. Dieu lui a montré le chemin, il imite Dieu, et c'est ainsi qu'à son tour, il invente l'homme.
Alors en même temps, ils disent bien aussi dans le film que finalement, ce sont aussi des objets, comme vous le disiez, cultuels, enfin rituels. Mmh. Et du coup, bon, ils résolvent la question en disant, mais tout est art dans ces civilisations, tout est création. Mais est-ce que ça pose pas justement problème d'une certaine manière?
Oui, je crois qu'on peut établir une comparaison avec, par exemple, les sculptures européennes de la période médiévale. Les cathédrales, est-ce uniquement art? Est-ce uniquement création? Je crois qu'il y a là vraiment, effectivement, une appropriation par le peuple d'une capacité créative. Et alors, ça nous renvoie à des problèmes tout à fait contemporains. Dans l'univers où nous sommes, c'est comme s'il y avait aussi une sorte d'art de l'élite par opposition à un monde populaire qui n'y aurait pas accès. Alors que dans d'autres circonstances historiques, il y avait une prise beaucoup plus directe, disons, du peuple sur l'art et sur les créateurs qu'il exprimait. Ce qui avait d'ailleurs aussi comme contrepartie que le statut des artistes créateurs n'était pas tout à fait ce qu'il est aujourd'hui, où ils apparaissent comme des personnages d'exception, et disons qu'ils ont aussi une position d'exception, y compris d'ailleurs sur le plan du statut économique et financier dans le monde où nous vivons. Mais là, je crois qu'il y a vraiment, disons, de grandes interrogations qui nous traversent de toutes parts.
Colonisateurs du monde, nous voulons que tout nous parle, les bêtes, les morts, les statues, et ces statues-là sont muettes. Elles ont des bouches et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne nous voient pas. Et ce ne sont pas des idoles, plutôt des jouets sérieux, mais qui ne valent que parce qu'ils représentent. Il y entre moins d'idolâtrie dans nos statues de saints. Personne n'adore ces poupées sévères. La statue nègre n'est pas le dieu, elle est la prière.
Je sais que quand je suis devenu anthropologue un peu par hasard,
Marc Piot,
en ayant rencontré Rouche, c'était un des films. On parlait beaucoup de cinéma parce que bon, moi j'étais surtout passionné de cinéma et ben lui aussi évidemment. Et que c'était un des films dont on parlait, quoi, qu'on évoquait comme un acquis, comme un des éléments participant de notre, à la fois de notre culture et notre façon, de nouvelle façon d'envisager les relations avec les civilisations et les sociétés africaines.
Ce débordement de création qui dépose ses signes comme des coquillages sur la paroi lisse de la statue, c'est un débordement d'imagination, c'est la liberté.
Et je crois que j'ai pas revu ce film. Ouais, non, je l'ai pas revu pendant je sais pas 40 ans.
Si on prend ses motifs à la terre, on s'aperçoit que cette création n'a pas de limite, que tout communique et que de ces planètes à ces atomes, ce monde de la rigueur renferme à son tour le monde de la beauté.
L'artisan poète ne se soucie pas de faire œuvre d'éternité.
Léopold Sédar Senghor, au Congrès des écrivains noirs, septembre 1956.
L'œuvre d'art est périssable. Si l'on en conserve l'esprit et le style, on se dépêche de remplacer l'œuvre ancienne en l'actualisant dès qu'elle se démode ou se détruit. C'est dire qu'en Afrique noire, l'art pour l'art n'existe pas. Tout art est social. Cependant, on ne saisirait pas l'essence de la littérature et de l'art négro-africain en s'imaginant qu'ils sont seulement utilitaires et que le négro-africain n'a pas le sens de la beauté, comme on l'a dit très souvent. Certains ethnologues et critiques d'art sont allés prétendant que les mots « beauté » et « beau » étaient absents des langues négro-africaines. C'est tout le contraire. La vérité, c'est que le négro-africain assimile la beauté à la bonté, surtout à l'efficacité. Ainsi, le Wolof du Sénégal, les mots tar, rafet, beauté et beau s'appliquent de préférence aux hommes. S'agissant des œuvres d'art, le Wolof emploiera les qualificatifs de Gieke, Yem, Mat, que je traduirai par qui convient, qui est à la mesure de, qui est parfait. Encore une fois, il est question d'une beauté fonctionnelle. Le beau masque, le beau poème est celui qui produit sur le public l'émotion souhaitée.
Masque de bête. Masque d'homme. Masque participant de l'un et de l'autre. Masque maison. Masque visage. Pierrot des fleuves.
On voit bien dans le film donc ces objets qui sont dans des vitrines. Mm-hmm. Et finalement, le titre, les statues meurent aussi. Oui. C'est une fois que l'objet est muséifié, mm-hmm. il n'a plus d'existence
oui, oui.
sociale.
Oui, oui. Oui, tout comme l'homme, disons, après sa mort, ben, la statue. Après sa mort, eh bien, elle échoue dans le cimetière des cultures. Et d'ailleurs, en quelque sorte, assignée à résidence dans la prison des vitrines qui les présentent dans les musées. Et ça aussi, d'ailleurs, question posée, y compris au musée du Quai Branly, qui présente aussi des petites cellules où il y a toute une série de statues qui sont là, disons, bien fixes et bien figées. Ça pose vraiment un abîme d'interrogation.
Et puis ils meurent à leur tour. Classés, étiquetés, conservés dans la glace des vitrines et des collections, ils entrent dans l'histoire de l'art, paradis des formes où s'établissent les plus mystérieuses parentés. Nous reconnaissons la Grèce dans une tête africaine vieille de 2000 ans. Le Japon dans un masque de Logoué. Et encore l'Inde, les idoles sumériennes, nos Christs romans ou notre art moderne.
C'est vrai que la mise en musée de ces œuvres est une transformation radicale de leur sens, c'est clair.
Marc Piot.
Mais ça a commencé par nous-mêmes, il faut bien le dire. Je suis désolé, mais les peintures religieuses et les statues du Moyen-Âge n'étaient pas faites pour être dans des musées. Elles étaient faites pour être dans des églises qu'on prie devant et c'était pas des œuvres d'art. Je suis désolé, ça n'était pas des œuvres d'art. Elles sont devenues des œuvres d'art parce qu'on les a constituées comme telles, qu'on se les ait appropriées, qu'on les a sorties de leur univers fonctionnel, si on peut dire, ou de leur univers d'intention, pour les mettre là où tout d'un coup un autre regard, et un autre désir se portait sur elles. Alors on a fait ça sur nous-mêmes. On fait ça sur les autres parce qu'on est une civilisation boulimique et dévoreuse. Voilà, c'est comme ça. Et c'est sûr, en tout cas, que tous ces objets changent de sens dès lors que, d'abord, ils sont constitués comme objet unique, ça c'est très important, et objet hors contexte social, hors contexte religieux, hors contexte culturel, ils changent de sens. Et ils prennent alors une valeur esthétique, oui, et une valeur économique. Ça, c'est quand même pas négligeable. Parce qu'il faut quand même pas oublier que... Alors, je sais rien, je peux pas dire pour toutes les cultures, mais pour celles que j'ai connues un peu, disons, tout au moins en Afrique, les objets qu'on voit et qu'on admire n'étaient pas des objets permanents. C'est des objets qui étaient faits et qui étaient refaits, reproduits, constamment, et l'idée de l'objet original était absurde, n'avait pas de sens. C'est nous qui insistons sur l'idée de l'objet original, de sa durée dans le temps, de son ancienneté, etc. Alors, évidemment, tout ça transforme complètement la nature de l'objet en tant que tel.
Mais en même temps qu'il gagne ses titres de gloire, l'art nègre devient une langue morte, et ce qui naît sur ses pas, c'est le jargon de la décadence. À ces exigences religieuses succèdent des exigences commerciales. Et puisque le blanc est acheteur, puisque la demande excède l'offre, puisqu'il faut aller vite, l'art nègre devient l'artisanat indigène. On fabrique par milliers ces répliques de plus en plus dégradées des belles figures inventées par la culture africaine. Ici, l'outillage vulgarise, la technique appauvrit. Au pays où toutes les formes signifiaient, où la grâce d'une courbe était une déclaration d'amour au monde, s'acclimate un art de bazar.
Bah, ils avaient, c'était assez prémonitoire d'ailleurs parce qu'ils n'avaient pas encore vu tous ces malheureux marchands africains qui sont sur les trottoirs de nos villes, en particulier autour de la Tour Eiffel, et qui vendent des objets africains qui sont fabriqués en Allemagne. Mais oui, parce que c'est ça aussi, c'est du faux-faux. Alors c'est très intéressant. On voit des masques, on ne sait pas d'où ils sortent. Ils sont faits sur des modèles, ils sont faits en série. Voilà, quoi, c'est une espèce de bazar, c'est le tourisme,
Ces bijoux en toc que les explorateurs offraient aux sauvages pour les amadouer, voici que le nègre nous les rend. À la beauté particulière de l'art nègre se substitue une laideur générale, un art où les objets deviennent des bibelots, un art cosmopolite, un art du vase à fleurs, du presse-papier et du porte-plume souvenir où l'on voit en transparence la tour de Babel. Un art du portrait aussi. Incapable désormais d'exprimer l'essentiel, le sculpteur se rattrape sur la ressemblance. Nous lui avons appris à ne pas sculpter plus loin que le bout de son nez. Mais ce que nous faisons disparaître de l'Afrique ne compte guère pour nous en face de ce que nous y faisons apparaître.
Dans Les Statues aussi, Alain Resnais et Chris Marker parlent aussi de la manière dont cet art devient un art de bazar. C'est-à-dire qu'il devient donc un artisanat,
marchandisation.
Une marchandisation.
Il y a un processus de marchandisation de cet art.
Pâté Diagne.
Je suis d'accord. Non seulement d'abord, les œuvres d'art classiques sont vendues à des prix faramineux, non indifférents. Ça coûte des millions de livres ou d'euros aujourd'hui. Donc, ils sont... Mais ce n'est pas propre à l'art nègre. Mais vous allez en Égypte, vous allez à Athènes, Les sculptures de Figas en miniature vous sont offertes à un petit prix. Et si ça vous intéresse, vous pouvez meubler votre maison avec. Ne serait-ce que de ce point de vue, le bazar permet d'universaliser, d'universaliser un art qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a une forme de diffusion, mais c'est vrai que c'est marchand. Mais c'est une forme de diffusion qui est quelque chose de la diffusion de ces œuvres sous des formes populaires me paraît être une des raisons de l'art à ses origines. Parce que l'art à ses origines décorait aussi, permettait de créer des conditions de production d'un culte ou d'un mastarum ou mystère. Aujourd'hui, on peut meubler son domaine avec cet art-là et se trouver parfaitement à l'aise avec des pièces qu'on n'a pas achetées chez le fabricant, mais qui sont des pièces industrielles. Ceci dit, les artisans, aujourd'hui, reproduisent sur une très vaste échelle l'art nègre. Et parfois, vous tombez sur des pièces remarquables, ça dépend.
Alors, tout cet appareil de protection qui donnait son sens et sa forme à l'art nègre se désagrège et disparaît. C'est le blanc qui prétend assumer le rôle des ancêtres. La véritable statue de protection, d'exorcisme et de fécondité, désormais c'est sa silhouette. Tout se ligue contre l'art nègre. Prise dans une pince entre l'islam ennemi des images et la chrétienté brûleuse d'idoles, la culture africaine s'effondre. Pour la relever, l'Église tente un métissage, l'art négro-chrétien. Mais chacune des deux influences détruit l'autre.
Oui, parce que ce que dénonce, René Marker, c'est les processus d'acculturation.
Complètement. Alors, là aussi, c'est une question compliquée, complexe.
Roland Collin.
Parce que d'un côté, il y a une acculturation qui est nécessaire si on considère l'acculturation comme ouverture. Mais lorsqu'il y a acculturation, il faut voir le statut des termes en présence. Si les termes en présence sont en relation d'ouverture réciproque, on peut parler de fécondation croisée. Si au contraire, les deux termes ne sont pas en situation d'ouverture réciproque, on peut parler de capture. Et c'est toute la problématique, d'ailleurs, au cours de l'année Saint-Gore où nous sommes, c'est un des thèmes sur lequel on réfléchit beaucoup. Saint-Gore était un militant du métissage. Mais le métissage, ça veut dire toujours langage saint-gorien ou césarien, le rendez-vous du donner et du recevoir. Et là, effectivement, le risque est très fort que la rencontre ou l'acculturation soit en réalité une assimilation passive. Toujours encore, le terme saint-gorien, nous voulons assimiler, mais ne pas être assimilé. Je crois qu'il y a aussi tout ça, disons, dans le message initial de ce film dont nous parlons.
Le sujet, c'est cet homme noir, mutilé de sa culture et sans contact avec la nôtre. Son travail n'a plus de prolongement spirituel ni social. Il n'ouvre sur rien, il ne mène à rien qu'à un salaire dérisoire. Dans ces pays du don et de l'échange, nous avons fait pénétrer l'argent. On achète son travail au noir et on dégrade son travail. On achète son art et on dégrade son art. La danse religieuse devient un spectacle. On paie le nègre pour nous donner la comédie de sa joie et de sa ferveur. Et ainsi, à côté du nègre esclave, apparaît une seconde figure, le nègre guignol. Sa force nous sert, son adresse nous amuse. Accessoirement, elle nous sert aussi. Des nations dotées de traditions racistes trouvent tout naturel de confier à des hommes de couleur le soin de leur gloire olympique. Mais un noir en mouvement, c'est encore de l'art nègre. Et dans le sport, le noir peut trouver, en attendant mieux, un bon terrain pour mystifier l'orgueil du blanc.
Et Pathé Ndiaye, Alain René et Chris Marker, quand même, dans la deuxième partie de leur film, font une critique extrêmement radicale du colonialisme et des méfaits du colonialisme. Il y a quand même cette idée que les Blancs imposent leur mode de vie, leur mode de fonctionnement à la communauté africaine, enfin colonisée.
Oui, mais ils sont partie prenante à l'anticolonialisme. Ils sont au cœur de cette question. C'est au fond leur vie. Ils sortent de la guerre avec cette générosité des hommes de gauche, des socialistes, des communistes, des catholiques du centre, de droite, mais qui est là. C'est ça que leur réalité. Donc, il n'est pas étonnant. C'est leur bataille. Et vous savez, à l'époque, c'était pas simplement René qui était censuré, mais même Senghor s'est vu interdit d'aller au congrès de Manchester qui demande l'indépendance en 1945. Il va se voir interdit d'aller à Bandung également comme membre de l'élite française.
Il faut situer ce film donc au début des années 50.
Roland Collin.
Où effectivement, disons, le colonialisme n'était pas mort. Et les grands débats n'étaient pas encore tranchés. Il y avait encore, si vous voulez, une sorte de rêve assimilationniste en France. Et puis, 3 ans après le film, enfin 1955, il y a la conscience, disons, un petit peu brutale du fait qu'il s'agit là d'un rêve impossible. Et à ce moment-là, effectivement, les assimilationnistes sont obligés de céder du terrain parce que la France n'a pas les moyens de cette ambition. Ça nous renvoie aussi un petit peu à l'histoire algérienne, qui est d'ailleurs tout à fait contemporaine. Il ne faut pas oublier cela. La guerre d'Algérie, ça commence en 1954. Les statues meurent aussi, c'est à peu près dans la même période. Et donc là, il y a effectivement le deuil, si vous voulez, de l'assimilation, qui n'est pas encore fait, qui va d'ailleurs traîner pendant quelques années. Et je crois que c'est aussi, parmi les ressorts qui ont fait censurer ce film, qui apparaissait comme dénonciateur d'une mainmise et d'un déni de reconnaissance et d'identité par rapport à une société, une culture différente.
René Vautier, vous êtes cinéaste, bien sûr. Vous avez filmé l'un des premiers films anticolonialistes dans les années 50. À quel moment vous avez vu ce film de René, donc Les statues meurent aussi?
Eh bien, je l'ai vu quand j'étais secrétaire du syndicat des techniciens du cinéma. Et quand Alain René est venu, ou son producteur, je ne me souviens plus, sont venus solliciter un appui pour le film qui avait de gros problèmes avec des gens qui ne l'aimaient pas. Voilà, c'était donc dans les années courant 52.
Donc oui, ce film a été censuré, en fait, au moment de sa sortie. Et vous aviez monté, René Vautier, un comité d'action contre la censure, c'est ça?
C'est ça, il y avait un petit groupe qui s'appelait le CAC, le Comité d'action contre la censure, qui était un groupe de jeunes, réalisateurs, de jeunes techniciens, et qui étaient prêts à se battre pour soutenir les films qui avaient des problèmes avec la censure.
En fait, Alain René et Chris Marker, d'une certaine manière, même s'ils n'ont pas forcément eu une démarche consciente, puisqu'Alain René, plus tard, a dit qu'il ne pensait pas faire un pamphlet politique
non,
à travers ce
tout,
film.
Mais il a peut-être montré qu'il était impossible de séparer l'art du politique. Et puis, quand il montrait à côté qu'il y avait... avec des documents d'actualité, c'est aussi ce qu'on leur a beaucoup reproché. Quand ils montaient en parallèle des manifestations africaines et puis le pape se faisant porter par les catholiques à Rome sur son baldaquin, il établissait une sorte d'égalité entre les manifestations religieuses, les symboles religieux, quelles que soient les religions, aussi bien aussi les religions animistes. Ça a paru comme quelque chose d'insupportable. Et là, c'était visiblement le cas, puisque Alain René et Chris Marker ont n'ont pu avoir le visa global pour leur film que quelques années plus tard. Ça a été bien que le film ait été sélectionné pour aller au festival de Cannes, il est sorti seulement pour le jury et il a été pratiquement invisible pendant des années.
Alain René, 31 mars 1969.
En effet, le film a été réalisé vers l'année 1952-1953, je crois, et il n'a été libéré de l'interdiction de la censure qu'il y a 2 ou 3 ans. Ce qu'il y a de plus comique, c'est que les gens de la commission les membres de la commission de la censure que j'ai pu rencontrer m'ont toujours dit ça n'est pas à cause des images qu'il y a dans votre film que nous l'interdisons, mais simplement parce que vous les exprimez avec trop de violence et que le spectateur, vous comprenez, est un espèce d'enfant, et alors il pourrait vous croire. Bien entendu, la vérité est beaucoup plus grave que ce que vous dites dans le film, mais on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de dire quelque chose au spectateur. Il faut le ménager. Alors Chris Marker et moi, qui nous avions réalisé le film ensemble, nous répondions toujours, mais de toute manière, étant donné le nombre de films colonisateurs, disons, qui existent sur la question, nous ne ferons jamais que rétablir la balance de l'ordre de 1%. Oui, mais tout de même, vous comprenez, là revenait toujours ce même refrain, le spectateur est un enfant, et ce que vous pouvez dire dans un journal, vous ne pouvez pas le dire sur un écran. Alors Dieu merci, d'abord la France s'est décolonisée depuis, mais aussi on s'est aperçu qu'on pouvait s'adresser à des spectateurs qui avaient tout de même un libre arbitre.
Le blanc ne comprend pas toujours la plaisanterie. Il lui arrive de crier pouce quand les choses tournent mal. Qu'un boxeur nègre se permette de corriger un blanc dans un pays marqué par le racisme hitlérien, on lui démontre à coups d'insultes, de menaces et de projectiles qu'il ferait mieux de rester à sa place. Et quand ce n'est plus pour jouer, quand le noir par exemple se mêle aux luttes du travail, c'est à coups de fusil et de matraque que s'opère la démonstration. Ce climat de brimade et de menaces conduit l'artiste nègre à une nouvelle métamorphose. Et sur le ring ou dans son orchestre, son rôle consiste à rendre les coups que reçoit son frère dans la rue.
Il faut insister sur le fait que, quand même, le film a circulé pas mal.
Marc Piau.
Enfin, moi, me semble-t-il, parce que je l'ai utilisé ensuite, 1 ou 2 ans plus tard, au cours d'une manifestation anticolonialiste. On faisait des manifestations anticolonialistes, en particulier avec les étudiants. En février, et je l'ai utilisé au cours d'une de ces manifestations avec des étudiants africains et des étudiants français. Donc ça a été un instrument de, disons, au moins au minimum d'information et de déconstruction de certaines images quand même. Évidemment, par la suite, j'ai revu le film longtemps après, ça a été un peu une surprise. Enfin, j'ai vu très longtemps après. Et là, effectivement, j'ai un peu pris un coup sur la tête, quoi, quand même, parce que le temps avait passé. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte à quel point le discours du film était totalement décalé, marqué dans l'histoire et parfaitement improbable aujourd'hui, quoi. Je veux dire.
Pourquoi Marc Piau ? Vous trouvez qu'il est décalé ? Il a un côté un peu paternaliste ?
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire, il rentrait tout à fait. On dirait qu'il était politiquement correct, si on peut dire, dans le sens de l'époque. C'est-à-dire, il rentrait dans la grande idée de l'universalité de la culture française ou des cultures occidentales. Et on donnait un brevet de culture aux arts africains. Le commentaire disait c'est aussi beau, c'est aussi bien, c'est aussi bon. Enfin, que vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils sont, mais voyez, ils ont été capables de faire aussi bien que nous. Mais ça faisait un drôle d'effet quand même.
Je souhaite que les Africains puissent voir le film, mais je souhaite aussi qu'en le voyant, ils aient un peu d'indulgence, je veux dire, et qu'ils n'oublient pas que le film a été fait en 1953 et non pas en 1969. Ça, c'est très difficile peut-être d'essayer de se remettre dans la mentalité d'un spectateur de 53, mais je crois que c'est la seule manière quand même de comprendre le film, parce qu'à ce moment-là, les simplifications pour 69 seraient tout de même trop grossières.
Juste pour finir, Paté Ndiaye, Présence africaine n'a pas aimé le film d'Alain René, Les statues meurent aussi. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ?
Je crois que le film de René était un peu en retrait sur le livre Art Nègre publié en 1951. Et Présence africaine, Jacques Ouellet y était, Maquet y était, qui a préfacé le livre, etc. Il est évident que la lecture que René donne de l'art nègre est plus poétique avec Chris Marker qu'elle n'est une analyse. Et c'est simplement ça qu'on peut lui reprocher, à mon sens.
Mais je crois que ces critiques de Présence africaine n'ont été que des critiques partielles. Parce que, bien entendu, quand même, le film en soi avait une portée que ses promoteurs ont reconnue. Il est évident aussi que, disons, René et Marker n'étaient pas en position, eux, justement, de s'aventurer sur ces terres, disons, qu'il convenait d'éclairer. Je crois que leur mérite, c'est d'avoir montré qu'il y avait quelque chose à voir. Peut-être que, d'ailleurs, si un cinéaste africain s'était joint à eux, le résultat n'aurait pas été tout à fait le même.
Non, nous n'en sommes pas quittes en enfermant un noir dans sa célébrité. Et rien ne nous empêcherait d'être ensemble les héritiers de deux passés si cette égalité se retrouvait dans le présent. Du moins est-elle préfigurée par la seule égalité qu'on ne dispute à personne, celle de la répression. Car il n'y a pas de rupture entre la civilisation africaine et la nôtre. Les visages de l'art nègre sont tombés du même visage humain, comme la peau du serpent. Au-delà de leur forme morte, nous reconnaissons cette promesse commune à toutes les grandes cultures d'un homme victorieux du monde. Et blanc ou noir, notre avenir est fait de cette promesse.
C'est un film d'avant-garde au sens le plus précis du terme. C'est un film d'ouverture qui débouche sur une sorte de mise en abîme de tout ce qu'il y a à découvrir par la suite, et nous y sommes. C'est un problème de grande portée parce que c'est le problème qu'on retrouve encore aujourd'hui. Est-ce que, effectivement, toutes les singularités du monde, en dehors, disons, d'une sorte de formatage par la société marchande, a de la valeur, a de la puissance, a de l'efficacité? Alors, quand on fait un pas de côté, eh bien, ça nous renvoie à cet univers que nous présentaient Marker et René à l'époque. Il y a 50 ans, c'était quand même, plus que courageux.
L'art nègre, selon Alain Resnais et Chris Marker, dans Les statues meurent aussi. Merci à René Vautier, Pathé Diagne, Roland Collin et Marc Piau. Mixage, Roland Alagnès. Archivina, Jeannette Padiarkowski. Une émission proposée par Séverine Liattard et Christine Robert.
Cette émission a été diffusée la première fois le 5 juillet 2006 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.